Et dans ces conversations cette semaine, on parle des conséquences de la visite du président chinois Xi Jinping en Russie et de la volonté de la Chine de créer un nouvel ordre mondial. Voici l'avis de Daniel Haber à ce sujet.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver Daniel, comme chaque fois, pour une nouvelle conversation avec vous. Et Daniel, eh bien, on ne peut pas ne pas parler de la visite du président chinois Xi Jinping en Russie, hein. Il a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine. Et alors, comme à chacune de nos conversations avec vous, on essaye surtout de faire des commentaires un petit peu à froid, avec un petit peu de recul. Donc maintenant, on est quelques jours après cette fameuse visite. Alors Daniel, quelle analyse on peut faire de cette rencontre?
Ben vous avez raison. D'abord, c'est un événement géopolitique majeur. Pourquoi, au fond, la vraie question, c'est pourquoi Xi est allé à Moscou justement la semaine dernière. Est-ce que c'était pour parler de la guerre en Ukraine? À aucun moment, on n'en a vraiment parlé. Donc, il n'est pas allé pour ça, il est allé pour autre chose. Donc, on va parler de cette autre chose. Et pour comprendre pourquoi Xi Jinping a fait un déplacement long, 3 jours, où au fond… Il s'est pas dit grand-chose, mais c'était le symbole même de sa présence qui était important. On ne peut pas comprendre si on ne comprend pas deux choses. D'abord, ce qui se passe depuis sa réélection. Et deuxièmement, si on ne comprend pas quelle est l'ambition globale de la Chine. En novembre 22, il est réélu pour un troisième terme et Xi devient l'homme le plus puissant de la Terre. Il n'y a personne d'autre qui a cette longévité et qui est à la tête d'un si grand pays et leader incontesté. Donc, il est l'homme le plus puissant du monde. Et il commence à changer sa vie, parce que pendant 2 ans, il a pas quitté Pékin. Il a coupé la Chine du reste du monde et il a mis tous ses concitoyens en confinement. Donc, c'était une espèce de grande prison, lui-même étant au centre de la prison. Et tout ça se libère. Il est réélu. Très vite, les Chinois se mettent en colère en disant ben, « Maintenant que tu es réélu, arrête avec cette politique du zéro Covid. » Il laisse faire un petit peu la rue et il dit ben, « D'accord, puisque vous voulez qu'on lâche tout, on lâche tout. » Il a de la chance. Omicron n'est pas très mortel. Et donc, ceux qui meurent, ben, c'est ceux qui devaient mourir. Et donc, les hôpitaux sont pas trop débordés. C'est géré. D'ailleurs, on n'en entend plus parler. La Chine s'est rouverte. On peut aller en Chine. On a des visas. Pas de quarantaine, on n'est pas obligé d'être vacciné. Donc c'est une libération totale. Et lui-même se libère et il commence à voyager. Il avait déjà commencé un tout petit peu avant sa réélection en allant à Samarcande pour marquer la reprise qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est un peu la réunion des pays qui sont proches de la Chine, l'Asie centrale et la Russie. Et là, il a dit à Poutine, stop aux menaces nucléaires. Ça, c'est tout le monde le sait maintenant, et d'ailleurs, on n'en entend plus parler. Donc, il a mis des limites à la guerre en Ukraine, qui n'est pas la guerre de la Chine. C'est pas sa guerre, c'est la guerre de Poutine. Et d'ailleurs, pendant la visite de Xi Jinping à Moscou, Poutine a reconnu qu'il fallait respecter la vision de la Chine sur sa guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils sont pas d'accord, mais chacun laisse faire l'autre. Donc ça c'est bien. Il repart une fois qu'il est élu à Bali, il rencontre Biden et là aussi, ils se mettent tous les deux à mettre des limites à leur confrontation. On fait pas de guerre chaude, pas de guerre à Taïwan. Vous voyez le danger qu'on brandit s'est éloigné pour plusieurs années. Pas de guerre froide non plus, pas de séparation, pas de rideau de fer entre les deux camps. Des guerres commerciales, des guerres technologiques, bien sûr, mais pas de rideau de fer. Ensuite, il parle à Bali, à tous les pays d'Asie, et il dit, allez les gars, on reprend la croissance, maintenant c'est fini, il faut travailler. Et les Asiatiques, comme un seul homme, repartent dans la croissance, et la croissance mondiale, grâce à l'Asie d'ailleurs, repart. Ensuite, il va à Riyad. Ça, c'est un grand événement. Et il signe avec MBS, Mohamed Ben Salman, un partenariat stratégique. Alors, les Iraniens sont jaloux. Raïsi, le président iranien, se précipite à Pékin. On lui dit, nous t'aimons aussi. Et quelques semaines après, à Pékin, les deux pays, Arabie Saoudite et l'Iran, ne se réconcilient pas, mais se parlent, décident de se parler. Donc, on voit qu'il y a un activisme absolument extraordinaire. Et là, il va à Moscou parce que il a besoin d'élargir son horizon. Vous savez, je parle souvent du grand continent, cette grande masse terrestre la plus grande du monde où il y a l'Asie. où il y a l'Europe, où il y a la Russie, il y a l'Asie centrale, il y a le Moyen-Orient, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, et tout ça, c'est un seul bloc, et c'est ce bloc-là qui intéresse la Chine. Et donc, il va à Moscou pour bien consolider les accords économique. On parle de partenariat stratégique économique, on parle de mettre en place un deuxième pipe de gaz sibérien, et on pourrait résumer la vision chinoise de l'organisation du monde par trois sigles: BRI, GDI, GSI. Le BRI, c'est les nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative. GDI, c'est Global Development Initiative. Et GSI, c'est Global Security Initiative. Trois initiatives qui viennent de Chine. C'est la Chine qui est à la manœuvre. C'est la Chine qui est la source de l'initiative de la refonte d'un ordre mondial qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'il est contesté à la fois par la Russie et par la Chine, mais aussi par le monde islamique et aussi par l'ensemble des pays émergents. Et donc voilà, c'est ça l'idée de fond de Xi Jinping, construire un nouvel ordre mondial à partir de l'Asie. Et donc, comme la Russie fait partie de ce grand continent et fait partie géographiquement de l'Asie, c'était un voyage qui fait partie de là. La seule chose qu'on peut se demander, c'est où il ira après, probablement en Europe, peut-être en Afrique, peut-être en Amérique latine, mais on va le voir continuer à aller faire la promotion du modèle chinois.
Alors on comprend un petit peu mieux finalement ce que veut et ce que veut faire finalement Xi Jinping. Mais alors Daniel, est-ce que ça va fonctionner tout ça?
Écoutez, ça ne va pas fonctionner dans un premier temps, parce que les Américains, eux, ils ne sont pas prêts à accepter cet ordre mondial alternatif que la Chine est en train de créer, parce qu'ils disent, petit 1, c'est pour cacher en réalité une volonté hégémonique de la Chine. La Chine veut dominer le monde, et donc elle fait semblant de créer un ordre mondial. En fait, elle veut créer l'ordre mondial chinois. Entre parenthèses, les Américains sont bien placés pour le dire, parce que quand ils ont voulu créer leur ordre mondial, c'était un ordre mondial américain. Donc, ils attribuent à la Chine les mêmes, au fond, objectifs qu'ils s'étaient assignés à eux-mêmes. Donc, ils ne croient pas à ça et ils disent c'est une menace pour nos libertés, parce que leur définition de la démocratie et leur définition des droits de l'homme et de l'état de droit sont pas les mêmes que nous. Donc, on est menacé. Donc, les États-Unis vont continuer à refuser cet ordre alternative. Alors, qu'est-ce que va faire la Chine? Elle va continuer à le bâtir. Elle va le bâtir autour de l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une espèce de d'ONU alternative qui est en train de grandir. L'Inde veut y entrer, l'Iran veut y entrer ou y est déjà entré, l'Asie centrale, la Russie, la Chine. Donc, vous voyez, ça va s'agrandir. Face à la Banque mondiale, la Chine a créé la AIIB, la Banque des routes de la soie, qui devient une espèce de Banque mondiale alternative. Il n'y a pas la globalisation mondiale, mais il y a la globalisation asiatique autour d'un ensemble économique qui réunit la Chine, le Japon, la Corée, toute l'Asie du Sud-Est et qui vient de s'étendre à la Russie, à l'Asie centrale et qui va ainsi de plus en plus grandir. Et le yuan, la monnaie chinoise, est en train de se présenter comme une alternative au dollar. Et donc, voilà, la Chine va continuer à créer des organisations internationales alternatives. Il va rester quand même l'ONU. L'ONU qui, au fond, ne sert plus à grand-chose, puisque la seule autorité de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Il est bloqué avec le droit de veto, puisqu'à l'intérieur du Conseil, il y a la Russie et la Chine. Donc, il ne peut plus rien arriver. Par contre, il reste des caisses de résonance. L'Assemblée générale, les commissions, où là, la Chine, la Russie peuvent faire entendre leur voix au monde entier et critiquer l'Occident. Et puis, il reste surtout les organisations techniques, celles qui font tourner le monde, la Poste, l'aérien, enfin bref, tout ça va continuer à unifier le monde sur le plan technique. Et puis les Chinois rappellent que le monde reste uni autour de la menace du changement climatique. Et ils reprennent ce thème du changement climatique pour montrer que eux, ils sont responsables. Ce sont des gens responsables.
Mais alors, Daniel, maintenant qu'on sait tout ça, question un peu au sens large, et j'imagine qu'on y reviendra lors de nos prochaines conversations, mais à l'heure actuelle, où va-t-on?
Écoutez, c'est le début d'un processus. C'est le début d'un processus. Le plus important, au fond, c'est est-ce qu'on veut la guerre? Parce que c'est ça qui est derrière ça. Et la réponse des Chinois, c'est non. Leur intérêt dans tout ce que je viens d'expliquer, c'est surtout pas de conflit militaire qui empêcherait de les Chinois d'atteindre leurs objectifs. Donc pas de guerre à Taïwan. L'apaisement, par exemple, au Yémen, plus de guerre au Yémen, ça c'est grâce à la Chine. Il reste la guerre en Ukraine. Donc on n'a pas tort de penser que la Chine a envie de mettre fin le plus vite possible à cette guerre en Ukraine. Il est du côté russe, donc on voit bien que la négociation qui est demandée, c'est de céder quelque chose aux Russes. Pour l'instant, ni les Ukrainiens ni l'Occident n'y sont prêts. Il faut un petit peu attendre que les choses se décantent. Donc voilà, on est dans une période d'attentisme. On attend une sorte de reprise des hostilités en Ukraine à l'occasion du printemps. Ça y est, on est au printemps, le dégel. Est-ce qu'il va se passer des grandes offensives et des grandes contre-offensives, ou au contraire, va-t-on s'acheminer vers des débuts de négociations? Ça, c'est la grande question, justement, qu'on regardera ensemble dans les semaines qui viennent.
Évidemment. Merci beaucoup, Daniel Habert, pour tous ces éclairages, comme d'habitude. Très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Et oui, au revoir Daniel, à la semaine prochaine, et on est impatient de vous retrouver.